Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
L'étude doit donc porter sur les chapitres 12 et 13 de l'Épître aux Romains. Je ne peux pas les lire en entier, cela prendrait trop de temps, mais en bons évangéliques, quelques-uns ont leur Bible, et puis je pense que vous connaissez assez bien ces textes, même si vous n'avez pas la Bible avec vous. Je lirai quelques versets. Tout d'abord, chapitre 12, verset 3. « Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention au-delà de ce qui est raisonnable, soyez assez raisonnables pour n'être pas prétentieux, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, comme nous avons plusieurs membres en un seul corps, et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et nous avons des dons qui diffèrent selon la grâce qui nous a été accordée. Est-ce le don de prophétie? On l'exerce, en accord avec la foi. L'un a-t-il le don du service? Qu'il serve. L'autre celui d'enseigner? Qu'il enseigne. Tel autre celui d'exhorter? Qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse sans calcul? Celui qui préside avec zèle, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sincère, fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Rivalisez d'estime réciproque. Au chapitre 13, je lis encore quelques versets, à partir du verset 8. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Il y aurait énormément à dire sur des textes aussi riches que ces deux chapitres de l'Épître aux Romains. Je m'en tiendrai donc au thème de l'amour, et particulièrement de l'amour aux prises avec la diversité. Dois-je ajouter que je ne parle pas de l'amour à partir de mon expérience, et s'il vous arrive de vous interroger, celui qui fait ce grand discours sur l'amour, le met-il en pratique? Je peux vous donner déjà la réponse, je ne le mets pas en pratique, ou si peu, qu'il ne vaut guère la peine d'en parler. D'ailleurs, la radicalité de l'agapé évangélique est telle qu'on hésite vraiment à en parler. Il faudrait, pour bien situer la place de l'agapé dans ces passages, prendre en compte tout ce qui a été développé précédemment dans les 11 premiers chapitres. Avant de parler de l'agapé du croyant, il faudrait exalter l'agapé divine, manifestée dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. D'ailleurs, vous le savez, Paul introduit cette deuxième partie de sa lettre, début du chapitre 12, par ce rappel, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, par l'amour divin. » Comme fondement pour l'amour que nous sommes appelés, nous chrétiens, à pratiquer, il y a toute cette structure dressée par l'apôtre, la sotériologie qu'il a déployée, la christologie, même si le nom du Christ n'est guère mentionné dans ces deux chapitres, la pneumatologie, et le Saint-Esprit non plus n'est pratiquement pas mentionné dans ces passages. D'autres éléments de ce cadre majestueux apparaissent plus nettement dans nos textes. La dimension communautaire, Paul, s'adressant ici à une église, à des chrétiens, comme le montre l'emploi du pluriel, la perspective eschatologique, la fin de la nuit, l'approche du jour, signalée au chapitre 13. Ce cadre large assure au départ la spécificité de l'amour chrétien. On doit le reconnaître, on trouve chez les philosophes, particulièrement dans le courant stoïcien, de fortes déclarations sur l'amour, même sur l'amour des ennemis. Déclarations font très proche de l'enseignement de Jésus et de celui de Paul. Mais, outre des motivations différentes, l'absence de ce cadre posé par l'ensemble du projet divin fait que les paroles de Sénèque, d'Épictète, de Marc Aurèle résonnent très différemment. Présence de l'agapé. En Romains 12, 13, cette présence est manifeste. Elle est explicite. Le mot apparaît en 12, 9, que l'amour soit sincère, deux fois en 13, 10, l'amour est l'accomplissement de la loi, l'amour ne fait aucun tort au prochain. Le verbe correspondant apparaît en 13, 8, 13, 9. On relève des termes relativement proches, l'affection fraternelle, Philadelphia, philostorgoi, 12, 10. L'importance que Paul accorde à l'agapé se mesure aussi à l'effort qu'il consent pour relier l'agapé à deux notions capitales, le bien et la loi. L'amour est au fond au cœur de toutes les exhortations de ces passages. Plusieurs auteurs estiment que l'exhortation de 12.9, que l'amour soit sincère, fonctionne comme un en-tête qui couvre toute la fin du chapitre 12, cette fin qui déploie la splendeur et aussi les exigences de l'amour. Et au chapitre 13, après le passage consacré à la soumission aux autorités, l'amour fait l'objet de nouvelles considérations. Présence de la diversité. La diversité est d'abord humaine. Les individus diffèrent sous toutes sortes d'aspects, et cette diversité se retrouve dans l'Église. Si 12.2 appelle les croyants à la non-conformité au monde, si la conversion est rupture, elle ne supprime pas l'humain. La diversité des personnes, des situations, des attitudes apparaît d'ailleurs clairement dans ces chapitres. Il y a ceux qui pleurent, ceux qui se réjouissent, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui peuvent secourir, ceux qui sont en autorité, ceux qui sont appelés à se soumettre, les persécuteurs et les persécutés. À Rome, il y a les chrétiens d'origine juive, d'origine païenne. Sur cette diversité, disons de base, viennent se greffer des diversités proprement chrétiennes. Je compte au moins 4 pôles de diversité dans ces chapitres. Tout d'abord, la diversité des membres, des personnes qui composent l'Église. L'image du corps que Paul reprend en 12, 4, 5, après l'avoir développée, comme vous le savez, dans 1 Corinthiens 12, insiste sur la pluralité des membres du corps. Pluralité que l'apôtre détaille, par exemple, dans Galates 3, 28, juifs, grecs, esclaves, libres, hommes, femmes, et aussi dans les tables domestiques, épouses, époux, parents, enfants, serviteurs et maîtres. Les chapitres 14 et 15 ajouteront une autre différenciation, les faibles en la foi, les forts en la foi, mais nous en parlerons demain. La deuxième diversité interne à l'Église est celle des fonctions, elles-mêmes rattachées à des dons, des charismes variés. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, 12.6. Cette diversité est voulue de Dieu qui dispense ses dons comme il veut. Le troisième pôle de diversité se situe dans le domaine de l'éthique. Il s'agit de la pluralité des commandements, ceux du Décalogue. En 13.9, Paul en énumère 4, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et il ajoute « ainsi que tous les autres ». Dieu rappelle l'apôtre à régler la vie du peuple de l'Alliance pour ce qui concerne la relation aux autres. Une dernière diversité s'exprime par les pluriels de 13, 12, 13. Les œuvres des ténèbres qui sont énumérées et, en contraste, les armes de la lumière. Cette dernière expression est étrange par le rapprochement entre ces instruments de destruction, de mort que sont les armes, et la lumière n'est pas expliquée. Peut-être faut-il y voir une allusion à l'aspect de combat contre les puissances mauvaises que revêt nécessairement la vie chrétienne. Les armes peuvent aussi signifier seulement les instruments, comme semble-t-il en 6.13. Le pluriel n'est pas commenté, le pluriel de ces armes n'est pas commenté ici, mais on sait qu'en d'autres passages, Éphésiens 6, l'armure du chrétien est détaillée, toutes les parties du corps, de la tête aux pieds, sont ainsi couvertes, reçoivent l'arme appropriée. Ainsi, dans l'Église comme dans la nature, la diversité est à l'honneur. Comment l'agapé se situe-t-elle devant cette réalité complexe? Ma première thèse, ma première proposition sera « L'amour tend toujours vers l'unité ». Constatons-le, les quatre diversités que nous avons repérées dans ce cadre large de l'amour aspirent à l'unité, en quelque sorte. L'unité apparaît comme la bonne solution, le juste aboutissement, ce que recherche l'amour. C'est vrai pour le corps. Nous, les membres divers, dit Paul, nous sommes un seul corps en Christ, étant membres les uns des autres. Les membres sont au service de la vie une du corps. L'expression de l'unité est même si forte qu'on a une sorte d'interpénétration des membres. Membres les uns des autres. La diversité est une grâce lorsqu'elle contribue à l'unité. Telle est la portée de cette image. Pour la diversité des dons, dont l'exposé prolonge la thèse de l'unité-unicité du corps, l'harmonie est aussi présupposée. Paul a insisté sur ce point en 1 Corinthiens 12, « Chacun reçoit la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous ». Et rechercher les dons spirituels en vue de l'édification de l'Église. Chaque charisme doit être orienté vers l'épanouissement de la communauté, prise comme un tout. On sent tout le poids de l'expérience lorsque le père Czeslaw Spik, dont on connaît l'œuvre magistrale sur l'agapé, écrit « Seul un amour véritable peut estomper les arêtes trop vives de personnalités trop accusées, permettant à chacun de se mettre à la disposition de l'ensemble. » À propos de la loi, des commandements, s'établit un rapport comparable entre diversité et unité. Tous les commandements, déclare Paul, se résument en une parole, celle de l'agapé, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », 13.9. L'amour récapitule les commandements, accomplit la loi. Là aussi, la diversité se fond dans l'amour. En 13.12, Paul, pour ce qui concerne les armes du chrétien, pose une équivalence hardie. Revêtir les armes de la lumière, armes diverses, nous l'avons dit, peut se dire tout simplement « revêtir le Seigneur Jésus-Christ ». 13.14. En lui seul résident toutes les ressources nécessaires à la vie de la foi pour résister aux forces adverses et remporter des victoires. En lui seul se trouvent tous les moyens qui permettent aux fidèles de tenir bon et d'avancer vers le but. Deuxième thèse. L'agapé peut cependant apparaître comme une menace pour la diversité. L'agapé peut cependant apparaître comme une menace pour la diversité. Car la diversité crée toujours des problèmes dans tous les domaines. Elle fait naître des obstacles qu'on ne surmonte pas nécessairement très facilement. Aujourd'hui, à l'évidence, la non-homogénéité des populations crée dans nos banlieues les difficultés que nous savons. Des termes comme exclusion, ghetto, repli identitaire, ou assimilation, intégration, etc., émaillent beaucoup de discours. À côté de ceux qui ont peur de la diversité d'origine et de culture, on trouve les optimistes qui parlent d'enrichissement mutuel, d'avantage pour tous. Les églises, rassemblements d'hommes et de femmes, ne restent pas à l'écart de ce type de problème. La diversité, en particulier dans les églises de ville, est aujourd'hui impressionnante. Dans l'église de banlieue que je fréquente actuellement, sur 50-60 adultes présents à un culte, une quinzaine de nations sont représentées, de 4 continents. Sur cette diversité de cultures, vient se greffer celle de l'éducation et de la formation chrétienne. Seules dans cette église, 5 ou 6 personnes ont connu la dénomination dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui depuis leur enfance ou leur jeunesse. Toutes les autres ont fréquenté plus ou moins assidûment d'autres types d'églises avant de se retrouver dans la même église. Paul savait que dans l'église de Rome, à laquelle il écrivait, des tensions, des critiques entre chrétiens d'origine différente risquaient d'affaiblir la foi et de compromettre aussi le témoignage. Devant ce genre de menaces, devant cette diversité, certaines déclarations du Nouveau Testament paraissent s'attaquer à la diversité en tant que telle et vouloir tout réduire à l'unité. C'est le cas de cette parole que j'évoquais il y a quelques instants, Galates 3:28. « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Christ. » Et puis on connaît les exhortations de l'apôtre, par exemple celle du début du chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, « Ayez un même amour, un même cœur, recherchez l'unité. » Et dans notre texte, au verset 16 du chapitre 12, l'accord entre chrétiens est considéré comme un bien à rechercher ardemment. Soyez bien d'accord entre vous. L'amour qui veut le bien de l'Église tend-il donc à gommer les différences, à façonner un chrétien type, à construire des églises où tous les croyants se ressemblent? On a l'impression que certaines églises, pour ne pas parler des sectes, opte en faveur d'un encadrement rigoureux des membres, multipliant des règles très strictes, opérant ainsi une sorte de nivellement des comportements, créant un type du véritable chrétien. Mais peut-on garantir l'unité en récusant la diversité? Et quelle unité obtient-on? N'est-ce pas une illusion de croire que l'amour exige des personnes identiques? En fait, l'unité faite d'éléments semblables devient une simple addition, une réalité comptable. Il y a donc unité et unité. La bonne unité ne détruit pas la légitime diversité, comme le montre l'image du corps. Cette image dénonce le séparatisme, le repliement sur soi, la négation de l'autre, mais pas la diversité. C'est vrai pour l'heureuse diversité des membres de l'Église, comme pour l'exercice des dons, que chacun manifeste le don reçu pour le bien de tous. Et l'Épître aux Éphésiens décrit la croissance du corps dans l'amour vers l'unité par le jeu de divers ministères et par l'engagement de chacun. Dans le domaine de l'éthique, ne peut-on penser que le commandement de l'amour élimine tous les autres, ou au moins les rend superflus? C'est l'avis de penseurs éminents, dans l'Église comme dans le monde. On apprenait, il y a quelques décennies, l'éthique de situation. L'amour, disait-on, trouve toujours l'attitude juste. Seul compte, en définitive, un amour véritable. Reconnaissons-le, l'apôtre semble aller dans ce sens et fournir un appui sérieux à cette opinion. Tous les commandements, déclare-t-il, sont résumés, récapitulés dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et il conclut « L'amour est donc le plein accomplissement de la loi ». La faiblesse de la position qui vide de tout contenu propre les autres commandements que celui de l'amour est d'entretenir l'illusion qu'aimer véritablement le prochain est une chose facile et évidente. De même que nous pouvons commettre beaucoup d'erreurs en croyant nous aimer nous-mêmes, il est facile de mal aimer les autres. Ni dans l'enseignement de Jésus, ni chez Paul, l'utilité des commandements dans leur diversité n'est véritablement mise en question, même si, sous la Nouvelle Alliance, le regard se fixe fondamentalement sur le Christ et non sur la loi. Nous avons besoin de toute la révélation pour nous guider dans nos rapports avec nos semblables, et l'apôtre ne se prive pas de donner lui-même des directives quand il le juge nécessaire. Certes, l'amour est l'essence des commandements, mais il n'épuise pas pour autant leur portée, ne récuse pas leur pertinence. En ne détaillant pas la panoplie du croyant, se contentant d'appeler à revêtir les armes de la lumière et en renvoyant au Seigneur Jésus-Christ qu'il faut revêtir, Paul paraît aussi privilégier l'unité de la démarche de foi et faire peu de cas de la diversité des moyens. Mais dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 5, il distingue déjà deux parties de l'armure, la cuirasse, le casque, et dans l'épître aux Éphésiens, nous l'avons signalé, il juge utile d'entrer dans des précisions sur le rôle de ces différents éléments. Ma troisième thèse, en fait, loin d'être une menace, l'agapé respecte et dynamise la diversité. L'amour ne privilégie pas le désordre et la confusion. Dans le corps, chaque membre doit jouer son rôle, pas seulement en théorie, mais pratiquement, en ne gênant pas les autres membres, mais en leur permettant, au contraire, d'assurer correctement leurs fonctions. Paul le demande aux chrétiens de Rome, en 12, 6 à 8, « Est-ce le don de prophétie, alors qu'on l'exerce? Est-ce le don du service, alors qu'on serve, etc. ?» L'accaparement des dons et des fonctions par un seul, par exemple la monopolisation cléricale, créant des sortes d'hommes orchestres, ne reçoit aucun appui dans les textes. L'amour fraternel conduira à veiller à ce que chaque membre de l'Église ait non seulement sa place, mais contribue d'une façon ou d'une autre à la vie de l'ensemble, soit en quelque sorte un membre actif. De même, nous l'avons noté, le Nouveau Testament honore la diversité des commandements, ne l'oppose pas à la règle de l'amour. Il reconnaît aussi la pluralité des armes. Il faut sans doute préciser ici que l'agapé accepte et honore les diversités dans les mesures où elles sont légitimes dans l'Église. Des différences telles que la richesse matérielle face à la pauvreté, un statut social avantageux face à une humble condition ne devraient pas peser sur la vie de la communauté et venir perturber le jeu de la mise en valeur des dons accordés par le Seigneur. L'amour protège la juste diversité et écarte les effets des diversités autres qui peuvent menacer l'unité. L'agapé, nous le savons, ne consiste pas tellement, pas seulement en tous les cas, en sentiments. Dans la section où il dépeint l'amour, 12, 9 à 21, Paul insiste sur le caractère volontariste de l'attitude chrétienne. Il parle de ferveur, d'empressement, de zèle, etc. Un débat a opposé, il y a quelques décennies, le théologien suédois Anders Nygren, auquel on doit une très forte étude sur Eros et Agapé, et Karl Barth. Nygren reprenait la thèse de Martin Luther, pour qui le chrétien n'est jamais qu'un canal pour l'amour de Dieu. Je cite Nygren, qui rapporte la pensée de Luther, « Le chrétien est comparable à un conduit qui, par la foi, reçoit de l'amour divin toute chose, puis laisse l'amour divin s'écouler à flot dans le monde. » Pour Luther, le sujet de l'amour chrétien n'est pas l'homme, mais Dieu lui-même. Cependant, de telle sorte que l'amour divin utilise le chrétien comme son instrument et son organe. L'amour chrétien n'est qu'un prolongement de l'amour divin. Le fidèle est le tuyau, le canal, qui conduit l'amour divin vers les autres. Karl Barth a réagi avec vigueur contre cette conception, contre cette mise à l'écart de l'humain. Lui, le champion de la grâce, sait bien qu'il faut un miracle de Dieu pour que l'homme en vienne à aimer. L'amour, en un sens, n'est pas une possibilité humaine. Mais il conteste toute confusion entre l'amour de Dieu et l'amour du chrétien, qui n'est pas le simple prolongement de l'amour de Dieu. C'est le chrétien, maintient-il, qui est le sujet de l'amour. Et même si ces deux amours se ressemblent, celui de Dieu, celui du chrétien, même si le premier est le fondement du second, l'homme, dans la dépendance de Dieu, utilise ses ressources de créature. L'amour est réponse, est obéissance à un commandement. L'homme s'engage véritablement dans l'amour. Barthes ne recule pas devant une formulation apparemment contradictoire. L'amour est à la fois impossibilité humaine, puisque Dieu en est la source, et possibilité humaine, car celui qui aime est totalement homme, totalement créature. Paul écrivait dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Oui, l'amour est répandu dans nos cœurs. Mais le cœur, dans la Bible, est aussi le siège de la volonté de l'homme. Il faut vouloir aimer. Dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, au verset 3, Paul n'hésite pas à parler du labeur, de la peine de l'amour, kopos. L'amour doit beaucoup travailler, lutter, souffrir, pour construire l'unité à partir de la diversité. Quatrième thèse, l'amour module la diversité. Curieusement, après avoir insisté sur la libre manifestation des dons et donné l'impression que tout ira bien dans l'Église si chacun veille à mettre son don en œuvre, les capacités reçues, Paul s'intéresse aux attitudes et formule des demandes prouvant que la vie communautaire est une plante fragile qu'il faut soigner très attentivement. En 12-10, on trouve une exhortation dont l'interprétation est délicate, mais qui, de toute manière, exige qu'on valorise systématiquement les frères et les sœurs en la foi, au-delà même des dons, peut-être modestes, qui leur ont été manifestés, accordés. Rivaliser d'estime réciproque, ou, on traduit encore, vous surpassant l'un l'autre en montrant du respect, ou même vous montrant le chemin l'un à l'autre avec respect. C'est cela speak qui privilégie la traduction « vous prévenant les uns les autres en marque d'honneur », fait cette remarque, quelle que soit la traduction retenue, la présence du participe proigoumenoi oblige à comprendre que chaque chrétien doit faire les premiers pas et en quelque sorte prendre la tête dans les témoignages de respect et de politesse. Il n'est peut-être pas superflu de rappeler, même dans les milieux chrétiens, qu'une des manifestations de l'amour est le respect, voire la politesse. En 12-16, l'amour indique une orientation qui interfère aussi, dans une certaine mesure, avec le libre exercice des dons. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Au chapitre 12 de la première aux Corinthiens, l'apôtre introduit une idée assez proche dans l'image du corps. Il faut, dit-il, honorer les membres plus faibles ou moins décents. Le passage est d'ailleurs curieux. Il associe l'action divine qui a composé déjà le corps en donnant plus d'honneur à ce qui en manque, et l'action des fidèles qui doivent aussi veiller à honorer le moins honorable. On voit la lourde responsabilité incombant aux chrétiens, compenser en quelque sorte dans les rapports fraternels le fait que certains dons paraissent moins enviables, moins susceptibles d'attirer l'attention que d'autres. Il convient d'être soi-même humble et de promouvoir ce qui est humble et risque d'être valorisé. Il ne suffit pas que chacun exerce effectivement son don. Le croyant aussi doit s'intéresser aux autres, à leur personne, en particulier s'intéresser aux plus faibles. La cinquième et dernière thèse, l'amour est sans frontières, mais il demande le discernement. Dans la Bible, l'amour ne fait pas acception de personne, pour reprendre une expression de nos anciennes versions. Il ne fait pas de différence, il ne base pas son jugement sur les apparences. L'amour s'ouvre à tous, sans exclusion. Le prochain est d'ailleurs celui qui se trouve à nos côtés, sans que nous l'ayons choisi. C'est l'autre, proche ou éloigné, aimable ou non. Même les persécuteurs, les ennemis ne se trouvent pas en dehors de son champ d'action. Le Christ a su aimer les pécheurs, même les exclus de la bonne société. Paul introduit au chapitre 13 la notion de dette. Et cette dette est constituée envers qui que ce soit. Paul exhorte à régler toute dette dont on a conscience, pas seulement les impôts dus aux autorités, et il juge que l'amour doit se voir comme un perpétuel débiteur. N'ayez pas de dette, sinon de vous aimer les uns les autres. Nous ne sommes jamais quittes de ce que nous devons à Dieu d'abord, mais aussi aux frères en la foi, et même à ceux du dehors. Nous recevons tellement des autres, sans nous en rendre compte. Les autres ont des droits sur nous, pas seulement les autorités de la cité. Nous avons aussi, bien sûr, des droits sur les autres, mais la ligne sacrificielle, si fortement marquée dès le début du chapitre 12, qui sous-tend tout le développement, nous invite à nous soucier beaucoup plus de nos dettes que de nos droits. L'amour ne se préoccupe pas de la valeur de l'autre, ne se demande pas s'il est digne d'être aimé. Il lui suffit de savoir que l'autre est aimé de Dieu. Cependant, l'admirable hymne à l'agapé de 1 Corinthiens 13 va très loin. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. N'est-ce pas la description d'un amour aux yeux bandés, volontairement aveugle, qui refuse de se poser des questions sur les éventuels bénéficiaires de son action? Est-ce là un amour véritablement accompli? On ne doit pas oublier les principes posés au départ au début du chapitre 12, qui valent pour toute la section. Ces principes sont non-conformité avec le monde présent et transformation par renouvellement, cette dernière opération visant le discernement de la volonté de Dieu, ce qui est bien agréable à Dieu, parfait. Paul ne précise pas l'agent de la transformation, mais nous savons que c'est l'Esprit Saint qui est la puissance à l'œuvre. L'amour du prochain sera donc, à la lumière de ce principe, un amour qui discerne, un amour éclairé, qui aura comme objectif le bien véritable de l'autre, c'est-à-dire ce qui est juste, ce qui correspond à la volonté de Dieu. Ce n'est pas aimer que favoriser les caprices et les faiblesses du prochain, même si cela attire son amitié. L'amour du chrétien, à l'image de l'amour de Dieu, n'est ni complaisant ni indulgent, même quand il se veut compréhensif. Paul, dans notre texte, signale en fait différents types d'amour. C'est le même amour, mais en fonction des bénéficiaires, il revêt certaines différences. Il y a d'abord l'amour fraternel, qui est celui dont il est question dans la plupart des textes du Nouveau Testament. Il y a d'abord l'amour fraternel entre chrétiens, pour lequel le vocabulaire familial est particulièrement approprié, et l'accent étant placé sur la réciprocité, les uns les autres, que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection, 12-10. Cette fraternité s'exprima, si besoin est, par l'entraide matérielle, « Soyez solidaires des saints dans le besoin », 12-13. C'est la koinonia chrétienne que la première église à Jérusalem a si magnifiquement illustrée. Comme l'écrit Pierre Bonnard, « Aimer veut d'abord dire servir ». C'est un fait, quand le Nouveau Testament parle de l'agapé, il envisage avant tout l'affection entre frères et sœurs en la foi. Et l'hospitalité recommandée en 12-13 vise apparemment l'accueil d'autres chrétiens. Mais en demandant l'amour du prochain, Jésus et Paul débordent l'ensemble formé par les disciples du Christ. Ce prochain peut être un frère en la foi, mais pas nécessairement, il peut même être un adversaire. L'amour ne s'arrête pas aux frontières de l'Église. La règle est posée, 13-9, aimer son prochain comme soi-même. À mon avis, cette expression est englobante. La comparaison embrasse le souci légitime, indispensable, que nous avons de nous-mêmes, mais aussi la préoccupation souvent dévoyée de satisfaire nos désirs. Saint-Augustin osait cette formule « L'égoïsme est le prototype et la mesure de l'amour du prochain ». Quoi qu'il en soit, l'idéal est certainement d'accorder au prochain une attention, une bienveillance comparable à celle, légitime ou non, que nous nous portons à nous-mêmes. L'amour franchit une barrière assez haute quand il atteint les ennemis déclarés, ennemis personnels ou ennemis de l'Évangile. Non seulement l'esprit de vengeance est exclu, mais l'amour se vérifie par l'aide concrète, donner à manger, donner à boire. L'apôtre reprenant en 12-20 le texte de Proverbe 25-21-22. Il est vrai que la dernière partie du verset laisse perplexe. Quelle est la visée du geste demandé? Sans doute en premier lieu empêcher l'ennemi de brouiller d'inanition. Mais à quoi correspond l'autre conséquence? Amasser des charbons ardents sur sa tête. Une interprétation assez répandue, soutenue par des autorités anciennes, telles qu'Augustin et Jérôme, veut que la générosité de l'attitude recommandée pousse l'ennemi à la repentance, à la réflexion, et du moins on peut l'espérer, à la repentance. Cette interprétation s'inscrit de façon heureuse dans la ligne maîtresse de ce passage, mais elle a un inconvénient majeur pour l'exégète. Elle n'est soutenue par aucun autre emploi de l'image dans ce sens. Aussi, plusieurs auteurs récents optent pour la lecture qui avait aussi la faveur d'autres autorités anciennes, Origène, Jean Chrysostome, qui voient dans le symbolisme des chardons ardents une mention du juste jugement divin. Bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement pour le fidèle de chercher à aggraver par son attitude la condamnation de l'ennemi injuste, mais ayant quant à lui adopté l'attitude juste, l'attitude charitable, de le remettre entre les mains du juge suprême. Dans le monde des hommes, il y a aussi des structures, des institutions. Il est possible de maintenir que le célèbre passage du chapitre 13 qui demande la soumission aux autorités instituées n'est pas un corps étranger dans ces chapitres, mais présente aussi une des formes de l'agapé. Le respect des autorités, le paiement des impôts, va dans le sens de la recherche du bien des semblables, du discernement d'une dette à assumer pour le bien de la société. Encore une section, sans vouloir trop prolonger, quelques minutes encore. Mais l'agapé doit aussi être réaliste. Certes, il y a une volonté de réalisme qui se mue aisément en excuse pour ne pas avoir exercé l'amour. On prend prétexte des situations, de la nature des personnes, des expériences passées pour ne rien faire. Mais il y a aussi un bon réalisme, attentif à ce qui est, pour trouver la meilleure approche, la meilleure solution. Paul, avant de parler des dons, de l'exercice des dons, n'hésite pas à recommander la sagesse, la prudence, un comportement raisonnable en 12:3, verset aussi difficile à traduire. Je dis à chacun d'être raisonnable pour avoir de la modération, Bible à la Colombe. La sophrosyné, la vertu de modération, était très prisée des penseurs grecs. Paul n'a pas de scrupule à faire intervenir cette notion lorsqu'il traite des relations dans l'Église. On peut avoir le cœur chaud et la tête froide. C'est ainsi qu'il ne faut pas croire que l'amour triomphera toujours. Ce réalisme apparaît en 12:18, où l'exhortation à rechercher la paix avec tous est qualifiée par une incidente, pour autant que cela dépend de vous. L'amour sait qu'il ne peut pas résoudre tous les problèmes, surmonter tous les obstacles, adoucir tous les ennemis. Il cherche à être, pour ce qui le concerne, sincère, authentique, comme Paul le demande, jusqu'au sacrifice éventuellement, indépendamment des résultats, lesquels appartiennent à Dieu. Dans l'Église, l'amour peut aussi laisser place à un certain réalisme pour les questions posées par la diversité. Je mentionne, avant de terminer, deux questions très pratiques. Quelle diversité est supportable par une église locale pour que l'amour s'y répande? Pour une église, la spécialisation, la polarisation sur un secteur de la société, c'est-à-dire au fond une limitation de la diversité, sont-elles légitimes? Quelques mots à ce point, sur ce point. L'exhortation de l'apôtre nous demande d'honorer au maximum la diversité, celle que nous rencontrons dans nos églises aujourd'hui. Mais n'y a-t-il pas des limites? Je me rappelle ma déception lorsqu'un frère haïtien, membre de l'église dont j'étais le pasteur, m'a fait part de sa conviction qu'il devait nous quitter pour, avec quelques autres amis, établir une église haïtienne. Ce départ était-il une défaite? L'église avait-elle été défaillante? Avait-elle négligé les besoins et les dons de certains de ses membres? Peut-être. Il est bon de se poser ce genre de questions. Mais ne faut-il pas admettre que lorsque les distances culturelles sont trop grandes, certaines séparations se justifient. Ce qui doit demeurer, bien sûr, quand cette sorte de distance s'établit, c'est la relation fraternelle, éventuellement l'entraide. Je me suis donc fixé cette règle, davantage peut-être basée sur l'expérience que sur les exhortations pauliniennes, respecter et encourager au maximum la diversité dans l'Église locale, s'efforcer de tenir compte d'attentes variées, mais accepter aussi l'impossibilité d'honorer des attentes légitimes, mais par trop éloignées. À la deuxième question, quelques mots. Une Église peut-elle, en toute bonne conscience, se spécialiser ? Rassembler des intellectuels, tel autre des jeunes, tel autre des ouvriers, tel autre des marginaux. Cette diversité existe dans nos églises. On sait que telle communauté est plutôt bourgeoise, intellectuelle, telle autre populaire, etc. On assiste ainsi à la concentration sur une couche sociale qui n'a pas été voulue nécessairement au départ, qui peut résulter de la localisation, des dons du pasteur ou encore d'autres facteurs. Cette concentration se justifie-t-elle ? Ne va-t-elle pas à l'encontre de cette diversité que met en valeur l'image du corps ? Mais là aussi, un réalisme s'impose et l'amour ne trouverait pas son compte s'il contraignait à maintenir dans un cadre donné des chrétiens qui ne pourraient pas véritablement recevoir ce à quoi ils ont droit et qui ne pourraient pas non plus s'exprimer. La spécialisation à outrance, qui fait que des chrétiens très semblables se retrouvent, peut conduire aussi à un appauvrissement et au risque de piété déséquilibrée. Dans chaque église locale, le fidèle a besoin de recevoir de frères différents de lui, pourvu de dons qu'il ne possède pas lui-même. Bien sûr, à côté des églises, il peut y avoir aussi des cadres, des œuvres qui se spécialisent. On pourrait, dans la même ligne, justifier jusqu'à un certain point la pluralité dénominationnelle, si j'ose m'exprimer ainsi, différentes structures, différentes traditions, différentes sensibilités offrent un choix fort large aux chrétiens d'aujourd'hui. Mais on pourrait penser aussi que le paysage est très chargé et que certaines simplifications pourraient être avantageuses. Et j'aimerais terminer en faisant état d'une prière que je voudrais faire mienne et qui, je pense, pourrait être la vôtre devant cette complexité, devant cette situation souvent difficile à maîtriser. Nous pouvons, je crois, prononcer cette prière. Seigneur, viens m'apprendre à aimer.